Chapitre 2. Erevan, Arménie. Les deux monospaces Mercedes classe V gris roulaient dans les larges avenues de la capitale arménienne. L'aurore colorait d'un rose intense les façades de tuf des immeubles. Le soleil se dissimulait encore derrière le mont Ararat, à moins de 40 km au sud-est. Des lambeaux rouges s'étiraient derrière le double sommet enneigé. La plus grande montagne au monde, songea Kirill Ecker. Pas la plus haute. Le mont Ararat ne culminait qu'à un peu plus de 5000 mètres. Mais on lui avait toujours raconté que si l'on mesurait la hauteur, non pas du niveau de la mer, mais de la plaine qui l'entourait, le mont Ararat dominait l'Arménie de près de 4400 mètres. Le plus important dénivelé de la planète. Au soleil levant, l'impression d'un géant écrasant tout autour de lui était plus stupéfiante encore. Kirill détailla le GPS sur le tableau de bord. Encore 20 km avant d'arriver à Ekmiadzin. Il fallait sortir d'Erevan, traverser une interminable banlieue. La capitale arménienne ne cessait d'étendre ses tentacules vers les 5 collines qui l'entouraient. Kirill se tourna vers le siège passager. Le jeune Morad ne parvenait pas à masquer son excitation. Sa première mission. Il allait enfin se jeter dans le grand bain. De sang. Derrière eux, 5 hommes demeuraient fermés à toute expression, indifférents à la misère des immeubles qu'ils laissaient derrière eux. Écouteurs de MP3 dans les oreilles, lunettes de soleil, chewing-gum entre les dents, concentrés, à peine un mouvement de mâchoire. Les monospaces longeaient à présent les hauts murs de la distillerie de cognac. L'affiche du cognac Ararat s'étalait sur 3 mètres sur 5. Les 3 étoiles de l'Arménian Brandy s'alignaient devant la plaine d'Ekmiadzin et l'inévitable silhouette du mont Ararat. Vu du côté arménien, bien entendu. Kirill esquissa un sourire de dédain. L'Ararat demeurait le symbole du minuscule État arménien, jusqu'aux étiquettes de leur alcool, alors que le mont appartenait à la Turquie depuis plus d'un siècle. Comme un type qui convoite ce qui ne lui appartient plus, qui continue d'adorer la femme qu'il a quittée. Pitoyable. Kirill jeta un coup d'œil dans le rétroviseur intérieur. À l'arrière, les 5 hommes étaient calmes. Trop. Ils connaissaient la mission. Intervenir dans une église n'était pas ce qu'ils préféraient, hantés sans doute par un vieux fond de superstition. Kirill leur faisait pourtant confiance. Il avait formé sa milice comme on compose une équipe de football, en repérant et recrutant les meilleurs éléments dans tous les camps d'entraînement d'Asie centrale. Sa quinzaine d'hommes comptait 3 Arméniens, un Iranien, 2 Turcs, un Géorgien, un Kazakh et quelques autres sans patrie, ou riches de plusieurs. Quelques jeunes chiens fous, tels Ahmet, Nouri, Jalil. D'autres expérimentés au combat du Haut-Karabakh, d'Ossétie ou de Tchétchénie. Pillés des tombes, massacrés dans des lieux saints, torturés des parents devant leurs enfants, ou l'inverse, ne les effrayaient pas. Toute équipe possède son capitaine. Kirill avait choisi Zeytin, qui conduisait le second véhicule. Difficile de savoir si, sous la cicatrice qui balafrait le haut de son crâne chauve, une partie de son cerveau avait été détruite, celle des émotions. Enfin, toute équipe doit choyer sa jeune recrue, son espoir, sa pépite. Morad. Kirill l'avait cherché longtemps dans une 20aine de camps. Il avait fini par le trouver dans une prison à la frontière entre le Liban et la Syrie. Il n'avait pas 13 ans et venait d'égorger avec un couteau de cuisine l'amant de sa mère. Son violeur, selon Morad. Morad était un diamant pur, que Kirill avait ciselé pendant de longs mois. Tout à la fois blond et métisse, frêle et décoiffé. Un foulard rouge autour du cou, Morad ressemblait vaguement à une version bâtarde du petit prince de Saint-Exupéry. Il venait de fêter ses 17 ans. Pour l'instant, l'adolescent caressait la corne du manche du poignard coincé entre ses jambes. Un sourire d'enfant lubrique illuminait son visage. La route d'Ekmiadzin était toujours quasi déserte. Les deux Mercedes doublèrent un vélo, 2 charrettes, quelques putes, 3 vieilles installant des caisses de légumes. La ville semblait ne jamais s'arrêter. Les monospaces gris dépassaient maintenant une succession de casinos. Des néons fatigués s'éteignaient dans le jour qui pointait. Un minable Las Vegas de banlieue, songea Kirill. Même s'il était conscient que les casinos de la périphérie d'Erevan rapportaient une fortune aux mafias locales. L'Iran n'était qu'à quelques kilomètres. Les Iraniens fortunés n'hésitaient pas à passer la frontière pour s'adonner aux frissons des jeux d'argent interdits chez eux. Musulmans, chrétiens, juifs, tous hypocrites.
200 mètres,
annonça la voix féminine du GPS. La cathédrale apparut juste à la sortie du rond-point de la place Comitas, au fond d'une allée goudronnée bordée de réverbères orangés. Kirill observa la façade de pierre ocre. Ainsi, c'était cela le Saint-Siège de l'Église apostolique arménienne, le Vatican byzantin, la première église du plus ancien État chrétien. Cette petite église haute de moins de 50 mètres, dont l'architecture semblait avoir été bricolée, réparée sans cohérence, catastrophe après catastrophe. Les deux Mercedes se garèrent. Par réflexe, Kirill détailla les alentours. Il était un peu plus de 6 heures du matin. Personne ne traînait encore sur l'esplanade. L'heure idéale, avec pour seul gardien des lieux, le mont Ararat. Kirill se fit la réflexion qu'il ne remarquait même plus l'immense montagne, depuis le temps qu'il bourlinguait dans le coin, qu'il passait les frontières de ces confettis d'empire qui se mélangeaient autour de l'Ararat. Turquie, Iran, Irak, Arménie, Azerbaïdjan, Nakhitchevan. D'habitude, il oubliait le géant. Pas aujourd'hui. Zeytin sortit du second monospace, accompagné de ses 6 hommes. Il s'avança vers Kirill en ajustant la bandoulière de sa kalachnikov. Lui aussi se tourna vers le mont Ararat.
« C'est vrai ce qu'on raconte, Kirill, que les moines de la cathédrale de Saint-Ekhmiadzin pouvaient voir d'ici, à la lunette, l'arche de Noé échouée sur le mont, qu'ils la montrèrent aux voyageurs pendant des siècles ?»«
Vrai, » confirma Kirill. « Sauf qu'on sait depuis Navarra que ce n'était pas l'arche qu'il voyait, mais un piton rocheux qui lui ressemblait vaguement. »
Zeytin sourit. Il alluma une cigarette.
Et la relique, alors? Le morceau de poutre de l'arche dans la cathédrale?
Tout ce dont je suis sûr, fit Kirill, c'est la fortune qu'elle représente. Pour le reste...
Un mercenaire se glissa derrière eux. Jalil, un Arménien.
C'est Saint Jacob qui l'a descendu. C'est ce qu'on me raconte depuis que je suis môme. Jacob était un moine perdu sur l'Ararat, mort de soif. Un ange est apparu, a fait jaillir une source et lui a confié un morceau de bois de l'arche. Jacob est redescendu et on en a fait un saint. Ils ont construit la cathédrale autour d'un morceau d'arche. La source existe toujours là-haut, le seul point d'eau de tout l'Ararat, à ce qui paraît.
Jalil cracha son chewing-gum avant de poursuivre.
L'ange avait prévenu Jacob. Le morceau d'arche était une preuve qui dispensait les hommes de gravir l'Ararat. Depuis, tous les Arméniens considèrent le mont comme sacré.
Kirill s'avança avec un rictus méprisant.
« Alors, reste dehors, Jalil, si t'as peur des profanations. »
L'Arménien crispa les doigts sur le canon de son fusil mitrailleur et ouvrit la bouche pour bredouiller des excuses. Kirill ne lui en laissa pas le temps.
Depuis Jacob, un paquet de tarés ont grimpé sur l'Ararat pour chercher les traces de cette putain d'arche. Alors, Jalil, me fais pas chier avec tes légendes de lieux protégés par les anges pour éloigner les curieux. On va juste faire notre travail, récupérer ce qui reste de l'arche. Quelques reliques dispersées dans le monde. Ou des preuves, appelle ça comme tu veux. Le boulot pour lequel on nous paye est de les rassembler.
Pourquoi ? Glissa Zeytin.
Va savoir. Pour le fric, au moins, ça te suffit ?
Ouais.
Allons-y.
Les 14 hommes armèrent leur kalachnikov et franchirent les quelques mètres qui les séparaient de la porte de la cathédrale.